Merci, cher Alain. Et avant de commencer mon propos, moi aussi, je ferai quelques remerciements aux organisateurs, organisatrices. Elles sont plus féminines, finalement, cher Julien. Elles sont plus nombreuses. Donc, merci d'avoir organisé ce beau colloque. Merci de nous avoir amenés sur les deux rives de la Méditerranée pour parler de ce sujet passionnant, le droit de l'environnement. Alors, pour ma part, je vous parlerai du contrat de fiducie. Mes étudiants, je les vois, ils ricanent parce qu'ils savent hein, que je suis passionnée
Non, ils
par ce
ricanent
contrat.
pas. Ils ricanent pas. Ils sont
Ils
sérieux.
sourient.
Ils ont
Allez,
souri. Il
ils
y en a un qui
sourient.
sourit, mais il a toujours souri, lui. Hein.
Mais ils
T'inquiète pas,
savent,
je veux
je
dire,
les ai
c'est
assez
figé.
embêtés
C'est
avec ça.
un sourire figé qu'il a. C'est pas grave. Il restera comme ça toute sa vie.
Je les ai assez embêtés avec le contrat de fiducie pour que ils sourient, ils ricanent, comme vous
Non, il
voulez.
sourit, il
On vous le
sourit.
pardonnera.
Ah, il est malin.
Alors, la fiducie, c'est le dernier né des contrats spéciaux français qui a été introduit dans notre Code civil à l'article 2011 par la loi du 19 février 2007. Et la fiducie, c'est un contrat qui autorise le constituant à transférer des biens, des droits et ou des sûretés dans un patrimoine d'affectation spécialement créé pour une opération tout à fait déterminée. Et le patrimoine est détenu par un tiers qui s'appelle le fiduciaire, et c'est d'ailleurs toute l'originalité du mécanisme, puisque en autorisant des transferts de propriété dans un patrimoine dédié à la réalisation d'un but précis, le législateur autorise le cantonnement patrimonial et l'externalisation d'opérations complexes. Le constituant du contrat de fiducie peut donc imaginer une infinité de figures juridiques, et notamment en matière environnementale. Car notre fiducie française dispose de très nombreux atouts pour devenir un outil de gestion des atteintes environnementales. Depuis la loi du 19 février 2007 qui a introduit la fiducie en droit français, le législateur a très largement modifié son régime afin d'offrir aux opérateurs économiques un contrat aussi souple que fiable. La fiducie bénéficie désormais d'un régime assez flexible puisqu'une place importante est accordée à la liberté contractuelle des parties. Et selon les dispositions de la convention de fiducie, celle-ci peut être constituée avec ou sans dépossession du débiteur, portée sur un bien, un droit, une sûreté, présent, futur, intégrée ou non dans un ensemble, être réalisée par un transfert de propriétaire au profit du constituant ou d'un tiers, ou bien par une cession organisée par le fiduciaire lui-même, mettre en œuvre une opération mixte, soit de gestion, soit de sûreté, soit les deux, et avoir une durée maximale de 99 ans. Le régime de la fiducie n'est toutefois pas parfait, il a des inconvénients, notamment en matière immobilière, puisqu'il impose des publications et les frais de publication portant sur les immeubles peuvent être élevés. C'est peut-être là le point négatif de ce mécanisme. Mais malgré ces contraintes, les acteurs économiques bénéficient, grâce à la fiducie, d'un instrument malléable et fiable qu'ils peuvent employer au service de leurs responsabilités environnementales. Alors, la responsabilité environnementale était à l'origine une des facettes de la RSE, puisque les entreprises doivent se saisir de ces enjeux environnementaux, d'autant plus depuis quelques années, et ce matin, cela vous l'a déjà été expliqué, la RSE mute. La RSE n'est plus seulement du domaine du volontaire, mais la RSE mute vers l'obligatoire, et le législateur a créé de plus en plus d'obligations en matière environnementale. En témoigne notamment le préjudice écologique reconnu d'abord par la Cour de cassation, puis par le législateur. Car l'activité économique des entreprises cause inévitablement des atteintes à la biodiversité, et ces atteintes sont protéiformes, pollution des sols, pollution des cours d'eau, destruction de la flore, destruction de la faune, dégazage en mer, bref, il y en a pour tous les goûts. Pour limiter ou compenser les atteintes causées par leurs activités, les entreprises peuvent, ou plutôt doivent s'engager dans des actions de restauration de la biodiversité. Et pour mettre en œuvre des mesures de développement durable qui limitent ou qui réparent les conséquences néfastes des activités économiques sur l'environnement, les entreprises ont en France à leur disposition un instrument souple et fiable, la fiducie, qui peut être utilisée à des fins environnementales, mais ce n'est pas une nouveauté. Il faut bien avouer que les Anglo-Saxons le font depuis de très nombreuses années grâce à leurs cousins de notre fiducie française, qu'est le trust. Alors, pour étudier rapidement, dans le temps qui m'est imparti, je l'espère, la fiducie environnementale, nous allons voir comment elle peut être utilisée d'abord au service de la réhabilitation du foncier et ensuite au service de la réparation du préjudice environnemental. Et ce sera donc le plan que j'ai adopté. Vous voyez, la vie a, les habitudes ont la vie dure et j'ai donc fait évidemment un plan en deux parties. Donc, commençons par notre paragraphe 1 sur la fiducie technique de réparation et de restauration du foncier. Pour réhabiliter des terrains qui ont été pollués, c'est-à-dire du foncier, et gérer la responsabilité environnementale des entreprises, celles-ci sont astreintes à une série d'obligations. On peut dessiner de grands types d'obligations, d'abord les obligations de dépollution et ensuite les obligations de compensation. Avec un peu plus de temps, j'aurais presque fait des A et des B, mais je ne me lancerai pas dans cette aventure périlleuse. Alors, évoquer les obligations de dépollution par le biais de la fiducie impose au préalable d'évoquer une opération d'origine, là aussi anglo-saxonne, qui s'appelle la défaisance. La défaisance, c'est une technique par laquelle une entreprise fait sortir de son patrimoine des éléments d'actifs et de passifs afin que ceux-ci soient gérés pour un temps long par un tiers. Et la défaisance peut évidemment être mise en œuvre par le biais du régime de la fiducie, si bien que la défaisance judiciaire devient un véritable outil de gestion de la responsabilité environnementale des entreprises. De nombreuses entreprises ont des obligations de dépollution de leur site. Imaginons par exemple une entreprise classée Céveso qui exploite un site classé Céveso. Le législateur oblige à la dépollution mais ne donne pas véritablement une feuille de route, ne dit pas point par point quelle mesure doit être mise en œuvre. Pour l'entreprise, l'obligation de dépollution peut s'avérer délicate sans l'accompagnement d'une espèce de maître d'œuvre de la dépollution. Pour éviter les difficultés, une fiducie peut être mise en œuvre. Ici, l'entreprise va transmettre le site, l'immeuble pollué à un fiduciaire spécialiste de la dépollution. Pour financer la réhabilitation de cet immeuble, l'entreprise va céder simultanément au fiduciaire des instruments financiers qui vont générer des liquidités nécessaires au financement des mesures. Et le fiduciaire va alors mener la dépollution de l'immeuble selon les prévisions contractuelles des parties. Et une fois la réhabilitation achevée, le fiduciaire va soit vendre le site réhabilité, soit va le retransférer aux constituants de la fiducie. Les obligations de réhabilitation de l'entreprise vont ainsi être assurées, mais externalisées par le biais de la fiducie. Et c'est le même schéma qui peut être employé lorsque l'entreprise est face à une obligation de compensation environnementale. La compensation environnementale fait référence aux mesures préventives ou correctives des atteintes à la biodiversité lors de travaux d'ampleur. Imaginons la construction d'une autoroute, par exemple. La compensation environnementale était initialement du domaine de la RSE, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui puisque le législateur l'a codifié aux articles 163-1 et suivants du Code de l'environnement et a transformé la compensation environnementale en véritable obligation de résultat. Si l'obligation est de résultat, ni le législateur ni les autorités administratives en charge de vérifier que la compensation environnementale est correctement mise en œuvre ne donnent là aussi de mesures particulières, point par point, au maître d'œuvre qui est en train d'édifier l'autoroute à réaliser. Il ne dit pas « tu devras faire ci, tu devras faire cela ». Là aussi, le maître d'œuvre peut se retrouver esselé et ne pas savoir comment réaliser les mesures de compensation environnementale qui peuvent consister en la restauration de l'écosystème envisagé, la réhabilitation de terrain, la création de milieux protégés ou encore la gestion de pâturage ou la lutte contre des espèces invasives. Pour répondre de ce défi, la fiducie, là aussi, apparaît comme un outil particulièrement adapté puisque, pareillement, identiquement à ce que nous venons de voir, les entreprises transfèrent au fiduciaire par le biais de la fiducie le terrain qui va faire l'objet de la compensation environnementale pour que ce fiduciaire spécialiste du droit de l'environnement mette en œuvre, soit le chef d'orchestre de la compensation environnementale. Outre l'application des mesures par un spécialiste du droit de l'environnement, cette externalisation permet de sécuriser le foncier puisque si l'entreprise disparaît, comme la fiducie peut avoir une durée longue, maximum 99 ans, le foncier sera sécurisé par un contrat qui externalise le contrat. Vous voyez donc que la fiducie permet en premier lieu de réhabiliter, d'être utilisée comme un instrument de réhabilitation des terrains du foncier qui ont été endommagés à l'occasion des activités économiques pour répondre des obligations de réhabilitation et de compensation environnementale des entreprises. Mais la fiducie peut aussi être utilisée comme un outil de réparation du préjudice environnemental et c'est la seconde partie de mon propos. Alors, Le préjudice environnemental est issu d'un long cheminement, comme l'a rappelé le professeur Pardini ce matin, car le préjudice écologique n'a été consacré par la Cour de cassation qu'en 2012, puis par le législateur, désormais à l'article 1247 du Code civil. Outre la reconnaissance de ce préjudice qui était nécessaire, l'originalité des dispositions du Code civil tiennent à la réparation prévue, car l'article 1249 du Code civil nous dit que la réparation du préjudice écologique doit être effectuée en priorité en nature. Et en cas d'impossibilité, la réparation s'effectuera par le versement de dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement, nous dit le Code civil. Et là aussi, on aurait pu faire un A et un B sur la réparation en nature et la réparation par équivalent, mais je vous promets, je vais tenir le temps. Alors, si un tribunal condamne une entreprise sur le terrain de sa responsabilité environnementale, l'entreprise ne peut pas se contenter de verser des dommages d'intérêt. L'entreprise doit intervenir puisqu'elle doit réaliser la réparation en nature des dommages qu'elle a causés l'environnement. Et là aussi, le recours à la fiducie semble pertinent et il y a d'ailleurs déjà des exemples en jurisprudence. En effet, la fiducie a été à plusieurs occasions adossée à une convention judiciaire d'intérêt public que Madame Barcala a tout à l'heure évoquées et qui sont mentionnées à l'article 41-1-3 du Code de procédure pénale. Ces conventions judiciaires d'intérêt public sont initiées par le parquet dans les cas où une personne morale est condamnée pour des délits prévus par le Code de l'environnement ou pour des infractions connexes de pollution. La réparation du préjudice écologique prévue dans cette convention, là aussi, ne donne pas de mesures concrètes. Elle se contente de dire qu'il faut réparer en nature et il faut financer cette réparation. Mais sans chef d'orchestre, l'effectivité de cette réparation peut s'avérer complexe. Raison pour laquelle, pour trouver un chef d'orchestre, la fiducie a été utilisée et le fiduciaire devient le chef d'orchestre. Il y a des exemples, deux ordonnances du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 12 septembre 2022 qui ont adossé une convention judiciaire d'intérêt public avec une fiducie. Et puis, si la fiducie ne suffit pas et que la réparation en nature n'est pas possible, eh bien la fiducie peut quand même être utilisée pour les réparations en équivalent. Mais les réparations en équivalent, c'est-à-dire les sous, ne peuvent pas être simplement versées n'importe comment. L'article 1249 du Code civil nous dit que le versement de dommages et intérêts doit être affecté à la réparation de l'environnement. Je cite le Code civil. Ce qui signifie que, outre le quantum de la réparation, le juge doit prévoir comment cette réparation va être affectée à la réparation de l'environnement. Et là encore, la fiducie est un grand secours, comme le démontre un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aurillac du 15 septembre 2022, qui condamne une société pour la pollution d'un cours d'eau, et qui dit que la somme affectée à la réparation, c'est-à-dire le quantum de la réparation, va être versée à un fiduciaire, parce qu'une fiducie a été constituée en amont au bénéfice de la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du Cantal. Ce qui veut dire donc que le constituant de la fiducie, c'est la personne morale, l'entreprise qui a été condamnée. Le fiduciaire réceptionne les fonds qui sont destinés au financement de la réparation de ce préjudice, non pas en nature, mais qui sont donnés à cette Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques du Cantal pour favoriser la restauration de l'environnement. Vous le voyez donc, la fiducie, je n'ai de cesse de le dire, je n'ai de cesse de plaider pour son utilisation. C'est un outil qui est vraiment protéiforme, c'est le couteau suisse du droit des contrats qui peut muter en instrument de gestion du risque environnemental et cette mutation est déjà en marche. Et je vous remercie.
Merci beaucoup.